La vraie liberté, c'était avant 1950, chacun plantait ce que voulait, on le foutait la paix. Depuis, on est dans l'administration, dans les jugements, tout le bordel à Bruxelles, c'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière. Alors, dans chaque département, vous avez des cépages recommandés que vous pouvez planter. Donc, il y a une liste nominative. Il y a des cépages autorisés qu'on trouve pas bons, qui ont été classés avec des abattements sur les droits de plantation. Et puis, les autres, c'est des cépages tolérés ou interdits. Les gens pouvaient conserver la vie de la vigne, mais ne pas les replanter. Sur 1 200 000 hectares en chiffre rond de vite en France, il y avait 406 000 hectares d'hybrides, dont 62 000 cépages interdits. C'est énorme.
Chaque semaine, dans l'Escale verte, nous partons dans une région, une ville, un village, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des actions positives ou négatives, avec des chercheurs, des alerteurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction les Cévennes, mais pas que, via un film, Vitis Prohibita, le retour des cépages résistants, un film à découvrir au cinéma à partir du 6 novembre, et vous entendiez à l'instant un extrait justement du film avec le témoignage de Pierre Gallet, ampélographe, c'est ça Stéphane Ballet ?
Absolument.
Ampélographe, professeur de viticulture.
Oui, des ampélographes, il y en a peu dans le monde, très très peu. Donc ils sont capables, en regardant une feuille de vigne, de déterminer l'espèce de la vigne, la variété, voilà.
Donc vous êtes le réalisateur et l'auteur de ce film sur les cépages interdits. Dites-nous pourquoi déjà cette terre spécifique, les Cévennes, se retrouve au cœur de votre film ?
Bon, c'est une histoire familiale tout simplement. Ma famille est originaire des Cévennes et j'ai toujours connu la bouteille de Clinton au repas, l'envie de mieux connaître.
C'est pour ça qu'à la fin du film, vous rendez hommage à votre père, c'est ça ?
Absolument, oui.
Donc l'histoire de ces vignes, formidable, je pense que c'est une histoire méconnue aujourd'hui, des vignes sacrifiées dans les années 50, donc l'Isabelle, l'Othello, le Noah, le Jacques, enfin voilà, de tous ces cépages qui ont disparu parce que la législation a décidé que ces cépages-là devaient être arrachés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de compréhension de ce qui s'est joué là, à ce moment-là ?
Oui, après l'arrivée justement des cépages américains au milieu du 19e siècle, et les maladies telles que le phylloxéra, l'oïdium, le mildiou, il y a eu une très grosse crise dans la viticulture. Et il a fallu trouver des remèdes pour y remédier. Et on s'est retrouvé rapidement avec une surproduction. Voilà, dans les années 30.
C'est-à-dire qu'on est allé chercher des cépages américains. Et sur ces cépages, on a fait des boutures et on s'en est servi. Ce sont des cépages hybrides.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces cépages américains qui ont été donc introduits étaient porteurs de maladies, mais eux-mêmes sont résistants aux maladies. On peut dire ils sont porteurs sains, voilà. Donc en particulier pour le phylloxéra, on les a utilisés comme porte-greffe. On s'est rendu compte que le phylloxéra étant un petit puceron qui vit dans les racines, ces racines-là résistaient. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, la majorité des vignobles sont greffés sur des porte-greffes d'origine américaine. Voilà.
Et alors, des hommes de terroir ont décidé de ne pas les arracher. Parce que ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ces cépages américains sont venus sauver finalement la production en France. Oui. Et puis ensuite, on a décidé qu'il n'était plus sur la bonne liste. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette décision de les arracher ?
En fait, c'est une décision politique. Il fallait répondre à une crise de surproduction. La profession n'utilisait pas tellement ces cépages-là. Et pour amener une réponse politique, sans trop heurter la profession, justement, on a éliminé 6 cépages, le Clinton, le Noah, l'Othello, l'Herbemont, l'Isabelle et le Jacquet, merci. Ça, c'était en 1934, voilà. Parce que ces cépages étaient majoritairement utilisés par des paysans dont leur activité première n'était pas de faire du vin.
Petite production, c'est ça.
Voilà, c'était la production personnelle, les vignes de la maison, de la treille. Et ils avaient la particularité d'être résistants naturellement, donc ils n'avaient pas besoin de tous ces produits phytosanitaires. Les familles faisaient leur propre vin, ne consommaient pas le vin du commerce. Donc on s'est dit, on va toucher ces gens-là plutôt que de toucher les grands professionnels.
Mais alors du coup, vous, pour le film, vous êtes retourné sur le terrain, vous êtes allé à la rencontre de ces hommes de terroir, ces résistants eux-mêmes, puisqu'ils ont décidé de les garder, ces cépages. Vous nous présentez dans le film des caractéristiques incroyables de ces cépages, c'est-à-dire qu'ils restent résistants, et résistants notamment aux agressions et aussi par rapport au réchauffement climatique.
Oui, alors c'est pas des supermans, évidemment, c'est pas des super-héros, ils vont pas résister à toutes les maladies, mais d'une manière générale, oui, ils sont très très résistants. Oui.
Et on peut les utiliser en bio notammment, parce qu'ils ne nécessitent pas forcément d'intrants chimiques.
Non, même pas du tout. On faisait du bio avant même que le terme de bio existe.
Alors, quelles sont les saveurs quand même de ces cépages? Est-ce que ils se sont retrouvés sur la mauvaise liste parce qu'ils n'avaient pas bonne réputation?
C'est un peu ça. Il y a à la fois du vrai et à la fois du faux. Bon, le goût, c'est quelque chose de culturel. Et puis, c'est aussi une mode. Donc, ces cépages qui avaient des goûts un petit peu particuliers quand même, parce qu'ils ont des origines sauvages, des goûts très prononcés de fruits, de fraises des bois, de maras des bois, voilà, des choses très...
Ils avaient du corps, quoi.
Ils avaient du corps, voilà, très, très puissant, qui, en plus, étaient vinifiés par des familles, qui n'avaient donc pas un savoir-faire extraordinaire, qui avaient des outils de production pas forcément très sains, très propres. Alors, ça développait des vins qui étaient familiaux, sans prétention, et qui était considéré comme mauvais.
Comme voilà. Rustique, on peut dire.
Comme
c'est
rustique,
ça
voilà, voilà.
Combien d'hectares il reste aujourd'hui?
C'est difficile de savoir, puisque c'est par nature interdit. Ils sont interdits.
Mais il en reste quand même beaucoup.
Mais je peux vous dire que quand vous promenez dans les petits villages Cévenol, il y a des trailles partout.
Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui de voir la législation s'assouplir?
Pour ces cépages-là, pour cette petite poignée, mais plutôt pour l'ensemble des cépages hybrides, qui, après cette interdiction des années 30, c'est plutôt dans les années 60, début des années 60, lorsque sont apparus les grands classements, les AOC, enfin voilà, toute cette réorganisation de la profession, qu'ont été bannis la quasi-totalité des cépages hybrides. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que ces cépages sont une solution. C'est pas la seule, mais en tout cas, ça répond aux problématiques environnementales et de changement climatique et pour réduire l'utilisation des pesticides. Il faut quand même rappeler que la viticulture, c'est en gros, c'est 3% des terres agricoles et 20% des tonnages de chimie utilisés quand même. C'est pas rien. Voilà.
Et alors, est-ce que l'INRA, par exemple, pour ne citer que cet organisme scientifique, s'intéresse à ces cépages, fait des travaux pour comprendre les bienfaits ou ce qu'on peut développer à partir de ces cépages comme vigne résistante?
Oui, bien sûr, il y a l'INRA, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a, je pense à l'association Piwi, par exemple, qui est une association internationale. La recherche en Europe a été un peu freinée parce que quand c'est devenu interdit, il n'y avait plus d'enjeux financiers à la clé. Donc, évidemment, les recherches ont nettement diminué. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est vers cette voie-là qu'il faut peut-être chercher. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont menés depuis peut-être une dizaine ou plus d'années. Il y a une grande dynamique qui est en train de revenir, avec à la clé, on l'espère, une législation qui évolue.
Donc des travaux menés sur des cépages interdits où on n'est pas censé mener des travaux, c'est ça? Ou on le fait en douce? Comment on fait finalement?
Parce qu'il y a une liste très précise de cépages qui sont interdits. Ils sont 6. Et par extension, il y en a d'autres. Voilà. Mais ça n'empêche pas, même s'ils sont interdits à la commercialisation, ça n'empêche pas de les utiliser pour faire de la recherche, par exemple. Pour les utiliser pour faire de nouvelles variétés, en hybridant avec des nouvelles variétés. Pas que des espèces américaines d'ailleurs, on peut utiliser des espèces d'Océanie, d'Asie, qui ont d'autres vertus de résistance, justement pour le climat et les changements climatiques. Donc on peut travailler avec, il n'y a pas une interdiction totale.
Et d'ailleurs dans votre film, vous partez hein, dans d'autres pays, alors en Europe, on vous retrouve aussi aux États-Unis, en Europe, en Autriche, en Roumanie, pour voir un petit peu ces cépages aussi qu'on retrouve dans ces pays-là, et ce qu'ils deviennent, et puis le marché américain, qui finalement pourrait bien être le gagnant de ces interdits, non? Est-ce qu'on peut dire ça?
Pour eux, ils n'ont jamais été touchés par l'interdiction, puisque c'est vraiment quelque chose de très franco-européen. Eux, ils ont toujours poursuivi la recherche et le développement de nouvelles variétés, notamment sur l'est des États-Unis, puisque leurs conditions climatiques sont très compliquées pour les vignes dites européennes. Nos vignes européennes, on les retrouve dans la Napa Valley, en Californie, mais pour les faire pousser dans l'est des États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, autant on a été figés et on a peut-être une période de 50 années qui ont été figées en France, eux, ils ont poursuivi. J'ai essayé de voir ce qu'avait donné le Clinton aux États-Unis, j'en ai pas vraiment trouvé parce qu'ils ont trouvé mieux, ils ont trouvé autre chose.
Ils ont fait évoluer.
Ils ont fait évoluer, alors que nous, le Clinton, c'est sentimental, on est attaché, on le défend.
Alors que disent les sommeliers des qualités de certains de ces vins, hein, puisque c'est vrai que vers la fin du film on voit donc vous parliez de Piwi France et on voit un viticulteur qui dit qu'il a 60 hectares en bio et puis donc voilà on se rend compte que ces vins-là, parmi ces vins il y en a de très très grande qualité.
Oui, parce que d'abord il faut faire une distinction entre ceux qui sont vraiment les purs américains, les Vitis labrusca, les Vitis riparia, comme le Clinton et ses copains, qui ont vraiment des goûts très très particuliers et très prononcés. Après, quand on les utilise pour faire des nouvelles variétés par l'hybridation, ce qu'on va chercher, c'est leur caractère de résistance. Donc on va associer un caractère de résistance avec des cépages qui ont des vertus gustatives. Et l'objectif de ces professionnels qui font de la recherche, c'est quand même de se diriger vers des goûts entre guillemets européens, d'associer et de garder le meilleur des deux. Voilà.
Eh bien, je convie nos auditeurs à aller voir votre film, Stéphane Ballet, Vitis Prohibita, à découvrir au cinéma à partir du 6 novembre. Merci à vous.
Merci.